professeur Théophile Assipate, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cette invitation spéciale. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui sur l'incursion où les M23 qui ont occupé Bounagana maintenant 3 mois. Jusqu'à ce jour, aucune solution militaire n'est trouvée. D'abord, quel est votre aperçu d'une manière globale de la situation d'insécurité en République démocratique du Congo dans sa partie orientale?
Merci pour la question. Cette partie de la RDC semble être beaucoup plus échappée au contrôle du gouvernement central. Ça fait déjà plus de 2 décennies que nos amis qui sont à l'est ne sont pas en paix. Et cela peut s'expliquer par plusieurs éléments tels que la présence des groupes armés qui semblent échapper au contrôle du gouvernement central, et non pas seulement aussi par cette présence des groupes armés, il y a aussi nos voisins avec lesquels nous partageons des frontières qui semblent ne pas nous aider dans le sens où nous pouvons arriver à mettre fin à ces situations.
Eh bien, le gouvernement est parti sur plusieurs fronts, professeur. D'abord, commençons par le front militaire qui semble être non productif, professeur. Est-ce un problème de logistique? Est-ce un problème de formation? Est-ce un problème lié à l'armement ou à l'embargo qu'on a semblé mettre sur la table qui fait que sur le plan militaire, cela ne répond pas?
Je crois que cette question est très délicate. Pourquoi très délicate? Si nous procédons par un recul par rapport à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en l'Est vers l'année 2013, la même armée que nous avons, elle a pu essayer de bouter hors d'état de nuire les M23. Et je crois que par rapport à ce qui s'est passé en 2013, on peut se dire que notre armée a cette capacité de bouter hors d'état de nuire les M23. Mais si nous rentrons dans les contextes actuels, on peut se dire ce qui fait défaut beaucoup plus entre l'armée, ce n'est pas l'armement, ce n'est pas les hommes des troupes, mais c'est ce manque de motivation. Pourquoi j'ai dit ce manque de motivation? Les militaires sont au front, mais apparemment, ce que nous apprenons, les nouvelles qui viennent du front, on constate qu'il y a beaucoup plus de trahison au niveau de l'armée, au niveau des troupes, et par conséquent, nous pouvons dire que c'est un problème de motivation qui fait défaut pour que nous puissions arriver à neutraliser les M23.
Entre-temps, professeur, s'il faudrait parler d'un autre front qui est celui diplomatique. La RDC a mûri d'espoir avec l'arrivée du secrétaire d'État, Anthony Blinken, dans sa tournée africaine. Mais malheureusement, les conclusions de cette tournée, dans la déclaration que le secrétaire d'État a pu faire au niveau d'un point de presse au Rwanda, le Congo ne doit pas appuyer les mouvements rebelles, tout comme le Rwanda ne peut pas non plus appuyer le mouvement rebelle. Est-ce une réussite diplomatique de la RDC ou c'est un échec cuisant? Et entre-temps, que faudra-t-il faire maintenant?
Comme vous le savez, le soutien externe, il est beaucoup plus conditionné par les intérêts que le système international peut avoir par rapport à un État. Et je crois que par rapport à la dimension diplomatique, la RDC a pratiquement échoué. Et cet échec se justifie par le fait que partout où la RDC est passée, que ce soit à Nairobi, que ce soit au niveau des partenaires qui viennent de très loin, vous avez cité ici les États-Unis d'Amérique, on pensait avec la présence du secrétaire d'État américain qu'on pouvait arriver à exercer pression sur les amis des M23 pour qu'ils ne puissent pas continuer à soutenir les M23, mais on sent que c'est un échec. Et par rapport à ça, je crois que la RDC ne doit pas beaucoup plus compter sur cette dimension diplomatique. Il faudrait que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens au niveau interne pour que l'externe puisse venir nous soutenir. Mais vous avez posé encore une autre question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la RDC soit sorte que lorsque le système international ou soit les partenaires externes vont constater que la RDC est à mesure de chasser les M23, alors que nous pouvons attirer l'attention des partenaires extérieurs pour qu'ils arrivent à nous aider.
Est-ce que vous trouvez une solution politique? Parce que je rappelle que vous êtes expert dans la politique, vous êtes professeur aux sciences politiques et administratives. Est-ce qu'une solution politique est-elle envisageable pour le cas de ce conflit entre les Rwandais et la RDC?
Oui, il y a possibilité, parce que les revendications posées par les M23 sont connues. Et par rapport à ça, il y avait un accord qui a été signé en 2009, et c'est déjà un aspect purement politique. Et je crois qu'en son temps, le gouvernement de Kabila a pu essayer de gérer cette question sur le plan politique, en s'appuyant bien sûr sur d'autres aspects diplomatiques, militaires. Et cela est possible. Et possible pourquoi? Les M23 ont posé un problème qui semble être réel. Réel pourquoi? Ils ont leurs revendications et le gouvernement est informé. Et sur le plan politique, on peut bien arriver à intégrer ces revendications, si cela est possible, pour qu'on arrive à neutraliser la situation à l'Est. Mais la grande épine qui semble déranger, c'est le fait qu'on présente les M23 comme étant un groupe constitué des sujets qui sont d'origine rwandaise. C'est à ce niveau-là, ça semble poser beaucoup plus des problèmes. Et même les déclarations politiques du chef de l'État à Nairobi, lorsqu'il a traité les M23 des rebelles, plutôt des terroristes, et par rapport à ça, il est tout à fait exclu une possibilité de négocier avec les terroristes. Voilà la tâche qui semble être beaucoup plus difficile pour le gouvernement. Accepter de négocier avec les M23 sur le plan politique, c'est remettre en cause les propos tenus par le chef de l'État à Nairobi, où il avait considéré ces mouvements des M23 comme étant des mouvements terroristes. Avec les terroristes, on ne peut pas négocier, on doit chercher à trouver des solutions purement militaires.
Dernière question, professeur. Est-ce que le fait que la RDC puisse entrer dans différents regroupements régionaux, notamment le East African Community, et aussi le fait que Félix Tshisekedi soit président, l'actuel président de la SADC, est-ce que ça peut avoir une répercussion sur la situation d'insécurité à l'Est?
Oui, ça peut avoir des répercussions, mais qui ne seront pas vraiment à la hauteur de mettre fin pratiquement à ces mouvements des M23. Comme vous le savez, dans ces pays, nous avons connu la présence de plus de 6 armées étrangères. Ça n'a pas su vraiment mettre fin à la guerre. Il fallait aller à Santiti négocier pour trouver des solutions. Ça peut apporter un plus, mais je crois que la solution, elle est beaucoup plus interne. C'est à la RDC d'organiser son armée, d'avoir une armée dissuasive, une armée qui peut être à mesure de gérer des situations aussi compliquées comme à l'Est. Et à ce moment-là, les partenaires qui viendront. Mais on a vu l'entrée des troupes ougandaises. Il n'y a pas longtemps, parmi les pays qui ont été accusés d'avoir appuyé les mouvements, les groupes armés au niveau de l'Est, il y a l'Ouganda qui a été cité. Et on voit cette armée entrer dans le cadre du regroupement régional. À ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que la RDC pense par rapport au problème de la RDC, où on pense que la solution viendrait des partenaires externes. Je crois que c'est un peu compliqué.
Professeur Théophile Lassipaté, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université de Lubumbashi aux sciences politiques et administratives. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, M. Guillaume, pour intégrer vos attachements à ma personne. Merci.
Merci.